En comics, comme dans tous les médias, il y a des noms qui font vendre. Des noms que l'on retise, parfois dans des concepts qui n'ont plus rien à voir avec les originaux. En matière de comics, le roi de la réutilisation, c'est le label Vertigo. Évidemment, après avoir repris Sandman dans une version qui n'avait rien à voir et qui a fait oublier les précédentes, la tentation est toujours forte de relancer ce type de série chez les indépendants. Il y a une deuxième raison plus économique à ce genre de démarche. En laissant les titres être réutilisés dans ces versions, ça permet à DC de donner des copyright own aux auteurs, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur série, mais les empêche d'aller faire leur série ailleurs. Eh bien oui, comment aller faire une série qui s'appelle Sandman si on n'a plus le droit de nommer le personnage Sandman? Comment aller faire une série qui s'appelle House of Secrets si le concept même de la maison est déposé par l'éditeur? Les auteurs ont les droits, mais ils ne peuvent pas partir et aller continuer leur série chez d'autres éditeurs. C'est donc tout bénéfice pour DC, qui ainsi s'assure de garder ses best-sellers. Vertigo est actuellement en train de se chercher. Beaucoup de titres très vendeurs se sont arrêtés, comme Hundred Bullets qui vient d'atteindre son 100e et dernier numéro. Et du coup, il faut trouver de nouveaux concepts. Ils avaient bien relancé House of Mystery, la dernière réutilisation d'un nom en date, mais la série n'a pas réussi encore à persuader son auditoriat. Et donc, il faut trouver d'autres concepts. Et là encore, les vieux pots font les meilleures soupes. La série dont je vais vous parler aujourd'hui en est à son 4e démarrage, ou plutôt son 3e démarrage, puisqu'elle n'a connu son titre définitif qu'à partir de son numéro 201. J'ai dit 201, c'est même 204, excusez-moi. Donc, No Soldier, puisque c'est la série dont je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, a repris la suite d'une série qui s'appelait Star Spangled Western, dont il était déjà le héros principal depuis longtemps, et dont il devient à cette occasion le héros unique et porteur du titre. Là, il aura donc son nom sur la couverture définitivement à partir de 1977 et jusqu'en 1982, la série s'arrêtant au numéro 268. Jusque-là, rien de très étonnant sur cette série. On est bien sûr sur un concept de guerre avec un personnage défiguré dont on ne connaît pas le nom et qui intervient toujours avec le visage couvert de bandelettes. Ce même personnage qui reviendra dans une deuxième série dessinée par Gascoigne et écrite par Jim Mosley, aujourd'hui connu sous le nom de Christopher Priest. Donc en 88-89, 12 numéros de ce deuxième volume de No Soldier, toujours sur ce concept de Deuxième Guerre mondiale. Là où le concept va vraiment renaître, c'est à partir de 97 et c'est sous le label Vertigo. Là, les choses sont mises entre les mains de Garth Ennis dans une série qui était sortie en France chez Le Téméraire, donc série limitée en 4 parties, où l'action ne se passait plus dans les années de guerre, pardon, mais bien directement à l'époque, donc dans les années 90, avec un concept qui tournait plus aux X-Files qu'à la guerre mondiale. On était donc dans les machinations au niveau des services secrets américains. Une série très réussie qui avait quand même fait parler d'elle et contribué au succès de Garth Ennis. La suite, eh bien, elle viendra plus tard et elle va être même cette année puisque vient d'être lancée aujourd'hui une nouvelle série, la quatrième, et avec un concept totalement différent et qui explique la musique que je vous passe aujourd'hui, puisqu'effectivement, on n'est plus aux États-Unis pour cette nouvelle série du Soldat Inconnu. On est carrément arrivé en Afrique. Mais après tout, le Soldat Inconnu, c'était plus un concept européen à la base qu'un concept américain. Cette série, on a deux auteurs à la barque qui sont quand même des gens qu'on commence à connaître, même si leur production reste encore assez épisodique. Le premier, c'est Joshua Dysart. On l'a surtout vu d'abord chez Hurricane avec deux séries qui s'appelaient Chasis et Violent Mecha. Et ces deux séries, eh bien, il les a rapatriées chez Image dès 97, oui. Pour 99, pardon. Donc Venant de Mecha, c'est vraiment celle qui l'a fait connaître, celle qui lui a fait gagner sa popularité. Il n'y a finalement que deux séries limitées qui sont sorties chez Image, mais on en parle toujours. En parallèle de ça, Dysart sort différentes séries avec des succès plus ou moins mitigés, certaines même dont il voudrait peut-être qu'on oublie le nom, puisqu'il a quand même écrit du Purgatory, du Bad Kitty, pour le Chaos Comics, l'éditeur de Heavy Learning et Lady Death. La carrière de Dysart est en dents de scie, avec des productivités qui vont vraiment bouger. À l'époque, dans la fin des années 90, il est donc très présent chez Image, disparaît un peu jusqu'à ses sorties effectivement en 2001 dont personne n'a oublié le nom. Et puis il revient en 2003. En 2003, DC lui donne une série limitée, Demon Driven Out, une série limitée en 6 parties qu'il va animer donc sur le personnage du démon de Jack Kirby. En 2004, sa carrière semble vraiment démarrer dans la suite de cette série Damon, puisque DC va lui confier la série Something, qu'il va écrire en 2005-2006, puisqu'il va faire les numéros 9 à 29 de la série. En parallèle, il fait une autre série dont on vous avait déjà parlé ici et dit le plus grand bien avec Alain. Il s'agit de Captain Gravity and the Power of the Vril, une série qui avait donc mis énormément de temps à finir et qu'on vous avait chroniqué dans le cadre d'une émission spéciale Pulps. En 2006, Dysart disparaît dans la suite de l'arrêt de Swamp Thing et revient petit à petit en 2007-2008, notamment chez Dark Horse, où il va faire des mini-séries sur Conan et BPRD. Il va également faire une série Bouddha pour Virgin Comics, qui à ce jour, à ma connaissance, n'est toujours pas traduite par Panini. C'est un des tout derniers titres qui aura été fait. Mais 2007-2008, effectivement, ne seront pas vraiment des années où on va entendre parler de lui. Et tout d'un coup, en 2009, il se relance directement sur cette nouvelle série, donc de Violent Mecha. Fait bien entendu entendre de Unknown Soldier et pas de Violent Mecha. Sur cette série, il va être accompagné de Alberto Ponticelli. Donc, il a commencé sa carrière vraiment en 1998 dans une série qui s'appelait Dead or Alive, a Cyberpunk Western. Mais objectivement, c'est bien en 2000 qu'on le découvre vraiment avec Sam & Twitch, dont il fera les épisodes 10 à 13, sortis chez SEMIC en France. Ensuite, évidemment, il aura des hauts et des bas. Alain serait ravi qu'on rappelle qu'il a quand même dessiné l'adaptation de Blade 2, donc série, pas la série, pardon, mais l'adaptation du film de Marvel. Puis, dans la foulée, il a quand même réussi à lancer la deuxième série Marvel Knights avec les 1 à 6, donc qui étaient donc les deux derniers numéros du label Marvel Knights, du magazine Marvel Knights sorti par Panini. Et puis voilà, c'est là encore une série une carrière qui semble disparaître. Alors sur un dessinateur c'est plus courant parce qu'effectivement ils ont plus de temps pour produire des séries, mais on ne l'avait pratiquement pas vu depuis 2002. Il avait fait notamment un numéro 5 d'une série qui s'appelait Lone chez Rocket Comics, un label de Dark Horse, mais vraiment pas de visibilité pour Ponticelli depuis la fin de Marvel Knights. Les voilà donc tous les deux réunis pour nous lancer cette nouvelle série Unknown Soldier. Alors de quoi parle Unknown Soldier ? D'un soldat inconnu, oui, fatalement, et pas tout à fait, puisque dès le numéro 1, on sait qui est ce soldat inconnu, même si ses opposants ne le savent pas encore. On est donc dans un pays en guerre civile, l'Ouganda. Le docteur Moses Lwanga est originaire de là-bas. Son père était ministre et a dû immigrer aux États-Unis en 1978. Il est devenu médecin, s'est lancé dans l'humanitaire et avec sa femme Sarah, ils ont décidé de rejoindre l'Ouganda et d'aider à ce que la population reprenne ses droits et arrête, mette fin à cette guerre civile. Moses Lwanga est un pacifiste. Au départ, effectivement, il ne veut qu'une chose, permettre l'autodétermination de ce pays, prise entre deux feux, avec d'un côté un pouvoir corrompu et de l'autre des rebelles qui utilisent des armées d'enfants. Donc le but du docteur Lwanga et de sa femme, c'est vraiment d'amener un climat de paix dans ces pays. La difficulté, c'est que dans la mesure où ils n'ont pas affaire à des militaires, mais à des enfants armés, c'est assez déroutant. En parallèle, Moses Lwanga est occupé par des cauchemars. Toutes les nuits, il se réveille en sursaut en se voyant massacrer sa femme dans un excès de violence. Il ne comprend pas effectivement ce qui lui arrive et ça l'inquiète profondément. Là où les choses vont commencer à devenir tragiques, c'est qu'à la suite d'un incident en Afrique, il poursuit une enfant qui a été enlevée par un autre gamin et accidentellement, il va mitrailler le môme avec sa propre arme. Et là, il commence à perdre la tête, à se rendre compte qu'il est capable des excès de violence dont il espérait pouvoir échapper. Et tout d'un coup, se dit qu'il peut être dangereux et que ses cauchemars devenant de plus en plus fréquents, il pourrait être amené à assassiner sa femme. Il va donc décider de se défigurer, de se faire passer pour mort. C'est sans compter sur une nonne et qui élève des enfants dans un village afrique qui va le recueillir. Là, il va se retrouver affublé d'un costume de prêtre, les seuls vêtements d'homme que cette femme a dans cette orphelinat. Moses Lwanga n'est évidemment pas prêtre, il n'est d'ailleurs toujours pas un soldat. Toute la première histoire va nous amener à découvrir la manière dont il va gérer ses voix dans sa tête et dont il va décider de devenir effectivement un soldat inconnu, un soldat qui va chasser cette rébellion qui a déjà tué tant d'enfants. Et donc là, il va se mettre en tête d'abandonner sa vie de médecin et de n'arrêter sa quête qu'une fois qu'il aura la tête de Joseph Kony, le leader des rebelles. À l'issue du sixième numéro, il y a un nouveau numéro, un one-shot qui vient de sortir, le numéro 7, qui est donc le prélude d'une nouvelle histoire. Et donc, on voit que Moses Langa, le soldat inconnu désormais, va prendre les armes et a réussi à récupérer une radio des rebelles qui va lui permettre de les localiser. C'est donc bien une guerre contre ces terroristes et contre le chef de ces terroristes qui va se mener. Et on a effectivement quelque chose qui va être très politisé, très bien vu avec une peinture très efficace de l'Afrique. Et objectivement, ça fait partie des séries comme on en voit trop peu, où on ne peut que prendre un plaisir énorme à la lire, parce que c'est vraiment très bien fait. Ponticelli dessine de manière très efficace. Les scénarios d'Aïssat sont toujours très efficaces également, avec des personnages bien campés. Et même si on peut se dire que le concept au départ ne prête pas forcément à des séries continues, d'ailleurs ils ont repris chez DC en même temps Le Temps Compté, mais en se gardant d'en faire une série continue, là sur No Soldier on sent que le potentiel est là. La seule interrogation, c'est va-t-on longtemps pouvoir s'intéresser à quelqu'un qui va combattre directement des enfants en Afrique. Donc on vous conseille quand même de vous lancer sur cette série. Je pense que comme beaucoup de séries, on devrait avoir une version française chez Vertigo prochainement. Moi en tout cas, à mon niveau, je ne peux que vous conseiller de la lire quand celle-ci sortira. Vous pouvez également bien sûr retrouver cette série très prochainement en TPB, directement en version américaine si vous ne souhaitez pas attendre une version française.